de lire.
De lire ?
Oui, de lire.
Ben, c'est très important de lire, c'est là qu'on apprend tout.
Ah, de lire, j'ai compris. Des livres, vous savez, la monnaie. Voilà, c'est pour ça.
À votre avis, à quoi ça sert de lire ?
C'est important de lire. Parce que d'une, c'est important pour l'orthographe. Le fait de lire les mots, on peut les assimiler.
Ça va aider dans la vie pour trouver un travail et
pour les papiers et tout ça.
Dans la vie sociale, ça sert. Il faut savoir se débrouiller.
Ça sert à comprendre plein de choses qui sont dans la ville, les papiers. Même là, à l'arrêt du bus, là, le monsieur m'a dit quelque chose, alors j'ai lu la pancarte après.
Ça peut favoriser l'imagination. De lire un livre, on imagine les personnages du livre.
C'est une question, quoi. À apprendre des choses, pouvoir découvrir de nouvelles choses.
La géographie, tout ça.
De lire, ça sert à appréhender la langue.
Voilà.
Ah ben moi je lis en français parce que je parle que le français, malheureusement.
Donc au fur et à mesure qu'on lit, on est habitué.
Déjà pour me détendre, je lis en français. Pour les livres de cuisine, je lis certaines recettes que je choisis en arabe. Alors.
Un livre est écrit dans une langue. C'est peut-être important de le lire en version originale parce que ça, on est plus proche du texte d'origine.
Parce qu'on ne dit pas les choses de la même façon d'une langue à l'autre, c'est ça.
Bonjour à tous.
Vous qui avez toujours un livre dans votre poche, vous qui détestez, mais vraiment détestez lire, laissez-vous surprendre. Chut. Et écoutez l'émission que nous, élèves de la classe d'accueil de collège Lascaz, avons imaginé pour vous.
Début de l'histoire.
Inizio della storia. Il était une fois dans un pays merveilleux.
C'era una volta in un paese meraviglioso.
A chacun son histoire. Il était une fois
un groupe d'élèves venus du monde entier
pour vous faire voyager
au pays des livres.
Quand j'avais 9 ans, la médiathèque de ma ville avait organisé un concours de lecture entre les élèves de CM1. Moi, parmi les 40 livres proposés, j'en avais lu 14. Ils avaient à peu près une soixantaine de pages. C'est là que ma passion pour la lecture a commencé. J'ai découvert des sensations que je n'avais pas en lisant des livres plus courts. Des fois, je vis les mêmes choses que les personnages. S'ils se retrouvent en danger, je panique avec eux. S'ils sont contents, ben moi aussi. Des fois, je suis contente, même si c'est le méchant qui est content. Je le trouve souvent plus malin que les autres. Dans les livres, j'apprends aussi les choses de la vie. Par exemple, quand deux copines se disputent pour rien dans une histoire que j'ai lue, j'essaie de ne pas faire pareil avec mes copines. Moi, je préfère les livres de fantasy et d'aventure. Je me rends compte que plus je lis, plus j'ai d'imagination. Même si je regarde un film tiré d'un livre, j'arrive quand même à imaginer des lieux différents lorsque je lis le livre. Lire, ça m'aide aussi quand je me sens pas bien. Dans ces moments-là, soit j'écris, soit je parle avec une amie, soit je lis. Ça me détend. Quand j'ai des problèmes à l'école, si je lis, j'oublie tout. Lire, c'est une passion. Je ne veux pas avoir un métier autour des livres. Juste en profiter pendant mon temps libre.
Je ne meurs. Personne ne m'a jamais ouvert.
Et moi, qu'est-ce que je devrais dire ? Je passe ma vie écrasée sous les pieds d'une table.
Moi, j'en peux plus. Je suis un livre de bébé, condamné à vivre dans une crèche. Il ne se passe pas un jour sans qu'on me bave dessus.
Bah, je suis plein de nourriture et j'attire même les fourmis. J'aimerais tellement que l'on me respecte.
J'ai été acheté il y a plus de 50 ans. Je suis aujourd'hui plein de poussière. Ils m'ont complètement oublié.
Il ne se passe pas un jour sans qu'on me morde, qu'on me jette par terre et qu'on me désinfecte en fin de journée.
Je vais mourir.
Hé, les amis, cessez de vous plaindre. J'ai une solution pour vous. avec Laurence Patrie, je vous promets un retour à la vie. Elle va vous ouvrir, vous étudier, vous plier avec précision. Elle va faire de vous une véritable œuvre d'art.
J'aurais bien mérité de me reposer enfin.
Bien, merci.
D'accord.
D'accord.
Alors, je m'appelle Laurence Patrie et je sculpte des livres. C'est une activité un peu bizarre. En fait, je plie les pages des livres et j'en fais des sculptures.
Vous pouvez nous montrer.
Alors, je vous en ai apporté quelques-uns. Là, vous arrivez papier.
Ciel,
ça c'est quoi, ça, votre
c'est
avis
un chien,
c'est un chat. Et là, est-ce que vous reconnaissez
un
détective. Mais
un détective.
Il s'appelle Sherlock Holmes.
Voilà, Sherlock Holmes.
Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, je plie les pages. Donc, si on regarde d'un peu plus près, c'est pas découpé, c'est plié. Et vous voyez, en fait, des fois, je plie une page sur deux et ça fait les creux. Ah, mais ils sont plus faits pour être lus. Ils ont eu une vie déjà. Il y a des gens qui les ont lus, et puis c'est des livres qui allaient partir à la poubelle, et que moi j'ai récupérés. Et je leur donne une autre vie. Mais ils sont plus faits pour être lus. Si tu veux, et s'il était à toi, tu pourrais entièrement le déplier et le lire. Mais c'est plus pour ça que c'est fait.
Comment vous avez eu cette idée ?
Alors, il y a un artiste américain qui s'appelle Isaac Salazar qui fait ça. Et j'ai découvert ça il y a déjà 5 ou 6 ans. Et j'étais admirative de ce qu'il faisait. Voilà, mais je trouvais ça beau. Et puis, peut-être que quelque part, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, ça a fait son chemin. Et puis, il y a quelque temps de ça, j'ai eu un moment un peu difficile. Et j'avais besoin de me trouver une occupation. Quelque chose qui m'occupe à la fois les mains et la tête. Bon. Voilà. Et j'ai dit, tiens, si j'essayais de comprendre comment il faisait, ce Isaac Salazar. Et je me suis lancée ce défi d'essayer de comprendre. Alors j'ai essayé, j'ai raté, j'ai réessayé, j'ai raté. Et puis un jour, j'ai trouvé ma méthode. Voilà, celle qui va bien, celle qui me va bien. Ça, c'est facile à faire.
C'est un cœur.
Ouais.
C'est un cœur.
Voilà.
C'est facile de faire.
Ça, c'est le plus facile dans tout ce que je fais.
C'est difficile.
Ça reste difficile, ça reste très minutieux. Après, le plus facile, ce que vous pouvez faire, parce que ça ne demande pas trop de calcul, c'est un hérisson. On prend le coin, c'est ça, jusque-là, et on fait la marque, très bien. C'est pas, le pliage, il n'est pas à l'intérieur. En fait, le dessin, il se forme sur la tranche du livre. Et après, du coup, ben, on voit, ça fait du relief. Regardez, vous voyez qui commence à se faire, votre hérisson ?
Oui !
Donc si vous faites tout le livre comme ça, jusqu'au bout, ben vous aurez un hérisson.
Merci.
Lire, j'aime que ça. J'y suis plus habituée. Mon père m'a toujours dit, « Sartkraf bitek », ça veut dire « va lire dans ta chambre ». Et maintenant, je suis plus à l'aise avec les livres qu'avec la télé. Quand j'habitais en Italie, à Varese, j'allais à la bibliothèque municipale, elle était dans mon école. On y allait 10 fois par semaine avec ma sœur, elle aussi elle aime lire. Quand je suis arrivée au collège à Montpellier, je me suis fait plein de nouveaux copains. Mais souvent, quand ça sonne à la récré, je vais directement à la bibliothèque pour continuer mon livre. William Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau, Federico Garcia Lorca et Emile Zola, ce sont les médiathèques que je connais à Montpellier. Quand je suis arrivée en France, j'ai dû attendre 5 mois pour faire ma carte du médiathèque. Quand je l'ai eue, j'étais très contente. J'y vais 4-5 fois par semaine seulement, car c'est loin de chez moi et que je dois prendre le tram. Je préfère la médiathèque Emile Zola parce qu'elle est très grande et qu'il y a beaucoup de livres que je ne trouve pas dans les autres médiathèques. Par exemple, Merlin ou Spider-Man. Mon livre préféré, c'est Geronimo Stilton, parce qu'il y a des blagues. la mummia senza nome. Era un pigro pomeriggio di ottobre. Fuori il vento soffiava, gelido, facendo svolazzare le foglie che cadevano dagli alberi. Io me ne stavo al calduccio, rintanto nella mia accogliente casetta, a leggere. En Italie, je lis écrit des romans. Depuis que je suis en France, j'ai lu aussi des BD et des mangas. La lecture m'a beaucoup aidé pour apprendre le français. Et mon arrivée en France m'a fait découvrir des mangas et des BD et des nouvelles histoires. J'étais obligée, je ne comprenais pas le français. Quand je suis arrivée, je lisais qu'en italien. Maintenant, même si je lis de plus en plus le français, je continue à lire des BD et des mangas.
Un peu la diversité. En ce moment, ce qui sort beaucoup, ça va être des mangas historiques. Et je sais pas pourquoi, en ce moment, ils sont très axés sur la Rome antique. Et par exemple, là, ce qui vient de sortir, vous avez Ad Astrae, si vous voulez feuilleter. Et c'est sur, en fait...
Et nous sommes dans une librairie de mangas.
Après, dans l'humour, vous allez avoir juste derrière, juste à côté de vous, il y a Jésus et Bouddha, les vacances de Jésus et Bouddha, qui se mettent en coloc et qui découvrent la vie sur Terre. Donc Jésus, c'est un gros geek.
On est ici pour parler avec la propriétaire de cette librairie pour avoir des informations sur les mangas.
Bonjour, je m'appelle Corinne Doucher et je suis gérante de la librairie Ikoku, une librairie spécialisée dans la BD japonaise et les mangas en particulier et tout ce qui est produits dérivés.
Nous sommes en train de faire une émission radio sur le sujet de la lecture. Pour beaucoup d'adultes, lire le manga n'est pas vraiment lire.
Moi, je pense que les gens s'axent beaucoup sur le fait que le manga, c'est uniquement une petite thème. Il reste bloqué sur les années 80 avec le Club Dorothée, des mangas assez violents et... ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a vraiment toute une catégorie de mangas qui touche tout type de population et plein d'histoires différentes. Et c'est aussi une sorte de passerelle vers la lecture. Ça permet aux jeunes et aux moins jeunes qui lisent pas forcément de commencer à lire. Parce qu'il n'y a pas forcément énormément de textes, mais ça démystifie le livre en fait. C'est que c'est tellement simple de lire un manga qu'après, c'est plus facile d'aller prendre un roman et de le lire.
Beaucoup de personnes n'aiment pas les mangas parce que c'est en noir et blanc, que les visages sont déformés, les expressions exagérées, il y a beaucoup de bagarres.
Alors ça, c'est les caractéristiques du manga, donc le sens de lecture japonais, ça fait partie du manga. Après, il y a énormément de types de mangas différents et il y en a aujourd'hui qui sont très réalistes, avec des dessins très travaillés, d'autres plus humoristiques, avec beaucoup de déformations, enfin, c'est extrêmement varié. Je pense qu'il y a un peu pour tous les goûts.
Qui sont vos clients ?
Alors, il y a énormément d'étudiants et de lycéens. Donc, ça va surtout la grande majorité entre 14 et 25 ans. Après, il y a de plus en plus de trentenaires qui s'y mettent aussi ou qui connaissaient d'avant. Et les éditeurs développent une catégorie de manga pour les plus jeunes, ce qu'on appelle les kodomo, en japonais ça veut dire enfant, et donc du coup ça attire de plus en plus d'enfants de 6 à 10 ans.
Est-ce que vous invitez parfois des auteurs de manga ?
Alors oui, j'essaye, c'est très difficile d'inviter des auteurs de manga parce que faire venir des japonais c'est quasi impossible, ça coûte très très cher. Il y a de plus en plus d'auteurs de manga français, notamment à Montpellier, donc on a quand même une petite îlot d'auteurs à Montpellier, donc c'est pratique. Et sinon, je fais surtout venir des auteurs de BD.
Regardez ce livre-là, il est trop beau. Il s'appelle One Piece Blue Deep, Characters of World. Waouh!
Cendrillon, c'est mon histoire préférée. Moi, je l'appelle Cinderella. J'ai découvert cette histoire en Grèce quand j'avais 7 ans. Je pense que c'était la maîtresse qui nous l'a racontée. Depuis ce jour-là, je porte les robes de Cendrillon à tous les carnavals. Cinderella est belle comme moi. Elle est gentille comme moi. Enfin presque. Parfois, je suis jalouse parce que je vois des filles qui ont des sacs, des stylos, plus beaux que mes affaires de l'école. Parfois, je suis méchante avec mon frère. Il veut me faire un bijou et après, je lui dis que je lui déteste parce qu'il ne fait pas comme je voulais. Grâce à l'histoire de Cendrillon, je me suis rendu compte que parfois, j'étais jalouse et méchante. Je lis beaucoup de fois cette histoire. Aujourd'hui, je ne suis plus jalouse, mais je suis encore un peu méchante avec mon frère et mes copines. Mon frère, il n'est pas méchant. Mes copines, elles sont un peu méchantes, comme moi. Je pense que parfois, il faut être méchante pour moi se faire embêter. Et si je suis méchante avec mon frère, en fait, je ne sais pas trop pourquoi. Une fois par mois, je les laisse me faire un bijou. J'aime le caractère de Cendrillon. Elle n'est ni méchante ni jalouse. Pour lui ressembler, il faudrait que j'arrête d'être méchante. Mais je ne vais plus laisser les autres être méchantes avec moi. J'aimerais pouvoir être gentille comme Cendrillon et que les autres fassent pareil avec moi. Si je continue à lire l'histoire de Cendrillon, Cinderella, peut-être un jour ça marchera.
Bonjour.
Stéphane, oui.
Alors, je m'appelle Stéphane Bertrand. Ici, nous sommes dans le centre de ressources illettrisme et alphabétisation. Donc, je travaille comme conseiller en formation. Et puis, par ailleurs, je suis également écrivain ayant écrit déjà une dizaine de livres.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'illettrisme ?
L'illettrisme, ce sont les personnes qui ont eu une scolarité à l'éducation nationale française, mais à la sortie de l'école, qui ont eu soit des difficultés pour connaître un peu bien la langue, ou alors les mathématiques, le calcul, les savoirs de base, les choses comme ça. Ou alors, c'est des personnes qui ont fait quand même leur scolarité, mais qui, dans leur vie, petit à petit, avec leur travail, ont oublié certaines choses de l'école.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'illettrés en France et pourquoi ?
Il y a en France 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme.
Quels sont les ateliers que vous faites sur l'illettrisme et quel type d'activité vous faites dans ces ateliers ?
D'abord, comme un centre de ressources, on a beaucoup de documentation et de livres sur la question de l'illettrisme ou de l'apprentissage de la langue pour les migrants, pour les personnes qui s'installent en France. Et puis également, on fait des journées d'information et puis des journées de professionnalisation pour les personnes qui travaillent en lien avec ces populations.
Pourquoi pensez-vous que c'est important pour les gens d'apprendre pour la deuxième fois à lire ou à écrire ?
C'est important parce que, vous le voyez autour de vous, partout il y a de l'écrit. Même pour se repérer, pour regarder les panneaux en voiture, pour se guider un peu partout, nous sommes dans de l'écrit. Et la France est un pays où il n'y a qu'une seule langue, c'est le français, il n'y a pas plusieurs langues, c'est pas traduit en plusieurs langues comme dans d'autres pays. Donc les personnes, dès qu'elles doivent faire quelque chose un peu d'officiel, remplir des papiers ou même au niveau de la loi, tout est écrit. Donc il faut qu'elles puissent se débrouiller avec l'écrit pour faire valoir leurs droits et accéder à quoi elles ont droit. Et c'est important parce que l'apprentissage, c'est pas seulement l'école. On apprend toute la vie, on peut revenir parce que les métiers, ils changent, ils évoluent. Vous avez grandi, par exemple, avec les nouvelles technologies. Mais il y a 10 ans, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et souvent, les gens ont besoin de se remettre à niveau pour pouvoir mieux travailler ou trouver un autre travail ou garder leur emploi ou voilà. Donc ils ont besoin constamment d'apprendre et c'est important qu'il y ait de la formation à l'école pour vous donner une base, mais aussi de la formation tout au long de la vie pour pouvoir évoluer dans son métier.
Mon journal intime. Intime, hein ? N'oubliez pas. Depuis qu'on m'a appris, j'écris tous les jours dans un cahier, et si c'est personnel, dans mon journal intime. Moi, je n'écris pas pour être lu, j'écris pour moi-même. Écrire, c'est le moyen que j'ai trouvé pour tout décharger. Mes problèmes, mes pensées, et puis pour ne pas oublier ce que j'ai fait pendant la journée. Mon journal intime, je l'ai eu à 9 ans. Ma tante me l'a offert parce que je lisais beaucoup et que j'écrivais tous les jours dans mon cahier de brouillon. Je suis partie de La Gangosa, en Espagne, il y a 8 mois. Et dans ce journal intime, j'écris beaucoup sur mes copains et copines d'Espagne. J'écris aussi sur les fêtes espagnoles, parce que j'ai pas envie d'oublier ma vie là-bas. En fait, j'aimerais bien retourner vivre là-bas. Ça, je l'écris dans mon journal intime, j'en parle pas souvent. Depuis le déménagement, j'écris aussi beaucoup sur le grand désordre qu'il y a chez moi. D'habitude, je m'énerve très vite. À tel point qu'un prof m'a dit que j'allais avoir une crise cardiaque. Ce déménagement m'apprend à rester calme. Et puis écrire, ça m'aide aussi à me contrôler. Un jour, ma sœur et ma cousine m'ont pris mon journal intime. Elles l'ont lu et ont coupé les feuilles. Quand je suis arrivée, j'ai crié. J'étais très en colère. Je me suis sentie trahie. Complètement trahi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut lire et d'autres non. Quand on écrit, c'est pas toujours pour être lu. Un journal intime, c'est une lecture interdite. Et c'est très important de respecter ça. Alors n'oubliez pas, intime, c'est intime.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Mais non, c'est pas ça la fin de l'histoire.
Tutto bene che finisce bene.
C'est pas ça la fin de l'histoire.
Il éteignit sa radio et se remit au boulot.
Attendez, attendez. On voudrait d'abord remercier
tous ceux qui nous ont aidés à écrire cette histoire.
On remercie
Capucine et Andrea de l'association Wakadi pour nous avoir aidés à réaliser cette émission.
Notre professeur Madame Faure
et Daphné, qui nous ont aidés pendant une semaine à réfléchir et à lire. C'est la fin de l'histoire des élèves FLE
du collège
Lasca.
Fin de la storia.
Final de la historia.
The end of the history.
Nihayat al-hikaya.
La fin de la storia.
Fin de l'histoire.